Robert Ilunga-Numbi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous organisez un atelier sur l'autosécurisation des journalistes. Quelle en est la motivation?
D'abord, la motivation, c'est le fait que les défenseurs des droits de l'homme sont en train de travailler dans un environnement très difficile, très compliqué, qu'ils ne les sécurisent pas, du fait que nous sommes devant des dirigeants qui n'ont pas encore intériorisé le développement démocratique dans leur façon de faire. Alors, tous les actes posés par les défenseurs des droits de l'homme sont considérés comme des attaques au pouvoir, comme, disons, déranger les partis politiques qui sont au pouvoir, et aussi même certains dirigeants comme je l'ai dit, qui n'intériorisent pas la démocratie et le respect des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que nous sommes dit? D'abord, il y a une loi internationale qu'on appelle la Déclaration pour la protection des défenseurs des droits de l'homme qui a été voté le 9 décembre 1998, si je ne me trompe pas, qu'on appelle la Déclaration pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et dans cette déclaration, on oblige aux États de trouver, de prendre des mesures spéciales pour la sécurité des défenseurs des droits de l'homme. Alors, pour dire que c'est l'État qui a la responsabilité de nous protéger, nous les défenseurs des droits de l'homme et tous les activistes pro-démocratie. Qui dit activistes pro-démocratie, c'est comme les mouvements de Lucha, Filimbi, FCC, et CCT, et Yanamar et tant d'autres. Alors, par là, nous nous sommes concertés et nous avons trouvé que, avant que l'État nous sécurise, nous devons trouver des mesures de sécurité d'abord par nous-mêmes. Ainsi, cette organisation, notamment la Voix des Sans-Voix, les Amis de Nelson Mandela, la Nouvelle Société Civile, l'Association Congolaise pour l'accès à la justice à CAJ, et CAFCO, une association des femmes, et l'IPRODEV, une organisation qui œuvre dans les Kwilu, et COSIRIRAR, qui œuvre aussi dans les Kwilu. Nous sommes dit, nous devons réfléchir et nous avons contacté les différents partenaires à travers le monde qui nous ont apporté un soutien pour voir comment nous devons nous sécuriser, nous les défenseurs des droits de l'homme, avant que la sécurité de l'État puisse nous être offerte.
Quelles sont les stratégies que les défenseurs des droits de l'homme doivent utiliser pour leur sécurisation?
On va mettre en place un système d'alerte précoce au cas et identifier qui sont les auteurs des violations des droits de l'homme qui peuvent être objet des sanctions internationales.
L'alerte précoce, c'est donc un des mécanismes, une des stratégies. Y en a-t-il d'autres?
Oui, il y en a d'autres. Par exemple, un défenseur des droits de l'homme qui est victime d'une arrestation arbitraire. On doit mobiliser un nombre d'avocats sur le plan local, sur le plan national, sur le plan international pour l'assister et aussi voir comment on peut les mettre à l'abri de la zone de danger dans les cas du possible. Il peut être mis en clandestinité pendant un temps en attendant que les membres du gouvernement puissent trouver des solutions autour de ça parce qu'on ne sait jamais, il y a des dérapages. Parfois, nous parlons du gouvernement dans l'ensemble. Ce sont les excès de zèle de certains dirigeants, sans respect des normes établies, il agit croyant que nous sommes dans un monde où l'impunité est permise. Alors, il y a déjà des mesures comme ça. Au cas où un défenseur est en péril, nous devons faire un effort pour trouver des mesures d'urgence. Cette activité s'appelle assistance d'urgence aux défenseurs des droits de l'homme ou activistes pro-démocratie en péril.
Où en sommes-nous avec la proposition de loi sur la sécurisation des défenseurs des droits de l'homme au niveau du Parlement?
Tel que je vous parle, je suis parmi les experts de la Commission nationale des droits de l'homme, les experts qui siègent avec la commission PAJ à Kinshasa, la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, où déjà la première monture de la loi, la proposition avec qui nous avons travaillé, qui a été transmise au Sénat, qu'il a déjà adoptée, et maintenant il est passé à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, mais nous avons trouvé les tripatriages de la loi, vraiment une confusion totale au niveau de l'Assemblée nationale. Ça devrait être voté lors de cette session ici. Malheureusement, nous avons fait un mémo rapidement parce que quand nous avons vu la manière dont la commission PAJ a préparé sa proposition, nous avons trouvé que c'est contre les droits de l'homme, c'est contre les défenseurs des droits de l'homme. Vaut mieux ne pas voir une loi qu'accepter une loi de cette façon-là. C'est ce qui a fait que ça a bloqué. La proposition de loi n'a pas été adoptée en deuxième lecture et ça sera rectifié. On verra lors de la prochaine session. Il y a déjà une démarche et une obligation pour notre État. Le Sénat a déjà adopté.
Et le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale Nelson Mandela, symbole de la paix. Que faire pour l'instauration d'une paix durable dans notre pays?
Vous voyez, si vous voyez derrière moi, il y a des figures. Il y a Martin Luther King, il y a Nelson Mandela, il y a une colombe. C'est pour dire que c'est un symbole de la paix. Si on a dédié cette journée du 18 juillet de chaque année, ne fût-ce que poser un acte de charité, un acte de solidarité, un acte de paix pendant 67 minutes, qui signifie les 67 années que Nelson Mandela a perduré pour la recherche de la paix en Afrique et dans le monde. Nelson Mandela reste un symbole et un modèle pour nous. Et si tous les dirigeants de notre pays s'inspiraient de Nelson Mandela, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, le pays va dans l'abîme, ça ne pourrait même pas arriver, parce que notre pays va très mal.
Robert Ilunga Nombi, président des ANM, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.